mit le point final en la trouvant presque aussi bien que je me l'imaginais en la commençant. Phénomène plutôt rare. Je suis fort paresseux lorsqu'il s'agit d'effectuer des recherches, mais j'ai essayé de faire convenablement mes devoirs cette fois-ci. Trois pilotes, Michael Rousseau, Frank Soares et Douglas Damon, m'ont aidé à mettre en place les détails techniques. Ils se sont montrés très fair-play, une fois qu'ils m'eurent arraché la promesse de ne rien casser. N'ai-je rien négligé? J'en doute. Même le grand Daniel Defoe s'est planté. Dans Robinson Crusoe, son héros se déshabille et retourne à la nage sur le bateau dont il s'est échappé et qu'il retrouve échoué, après quoi il se remplit les poches de tout ce dont il aura besoin pour survivre sur son île déserte. Sans parler de ce roman, montrons-nous charitable et évitons de citer l'auteur et le titre ici, dans lequel l'écrivain semble avoir pris pour des toilettes publiques, dans un métro, les petites guérites réservées aux conducteurs de rames. Mon avertissement se résume ainsi. Pour ce qui est exact, tous mes remerciements à messieurs Rousseau, Soares et Damon. Pour ce qui ne l'est pas, honte à moi. Ceci n'est pas seulement pure politesse et clause de style creuse. Les erreurs factuelles viennent en général de ce que l'on n'a pas posé la bonne question et non d'une erreur d'information. J'ai certes pris une ou deux petites libertés avec l'appareil dans lequel vous n'allez pas tarder à embarquer, mais elles sont minimes et m'ont paru nécessaires à la continuité du récit. Bon, assez raconté ma vie. Embarquement immédiat. Envolons-nous pour ces cieux rien moins qu'amicaux. Chapitre 1er. Mauvaise nouvelle pour le commandant Engel. La petite aveugle et le parfum de la dame. Le gang des Dalton débarque à Tombstone. L'étrange situation du vol 29. 1. À exactement 22h14, Brian Engel arrêtait son L-1011 American Pride à hauteur de la porte 22 et éteignait l'ordre « Attachez vos ceintures ». Il laissa passer un long sifflement entre ses dents et détacha son harnais. Il ne se souvenait pas d'avoir jamais ressenti une telle impression de soulagement ni une telle sensation de fatigue à la fin d'un vol. Il souffrait d'une pénible migraine dont les élancements lui cognaient le crâne et ses plans pour la soirée étaient définitivement arrêtés. Ni verre dans le salon des pilotes, ni dîner, pas même un bain en arrivant à Westwood. Il se laisserait tomber sur le lit et dormirait 14 heures. Le vol numéro 7, d'American Pride Tokyo-Los Angeles, avait été retardé tout d'abord par de forts vents debout, puis par l'habituelle congestion de la cage à oiseaux au-dessus de Los Angeles, l'axe étant, de la vie d'Engel, l'un des pires aéroports des États-Unis, si l'on acceptait celui de Logan à Boston. Pour compliquer les choses, il y avait eu un problème de pressurisation pendant la dernière partie du vol. Tout d'abord mineur, il avait peu à peu pris des proportions inquiétantes pour en arriver à un stade où aurait pu se produire une décompression explosive, stade auquel il s'était cependant miraculeusement stabilisé. Parfois, ce genre de problème se réglait mystérieusement. C'était ce qui venait de se produire aujourd'hui. Les passagers en cours de débarquement ne se doutaient absolument pas qu'ils avaient été à deux doigts d'être transformés en chair à saucisse sur le vol de Tokyo, mais Brian, lui, le savait, et son fichu mal de tête en était le résultat. « On va envoyer directement cette salope en diagnostic, » dit-il au copilote. « Ils savent bien que ça nous pendait au nez. Et quel est le problème, non ?» Le copilote acquiesça. « Ça ne leur plaît pas, mais ils sont au courant. Je m'en tape de ce qui leur plaît ou ne leur plaît pas, Danny. On est passé près cette nuit. » De nouveau, Danny Keane acquiesça. Il était bien d'accord. Brian poussa un soupir et se massa le cou de haut en bas. Son mal de tête avait l'intensité d'une rage de dents. « Je me dis que je commence à être un peu trop vieux pour ce genre de boulot. » C'était exactement ce que n'importe qui disait de temps en temps de son travail, en particulier à la fin d'une telle épreuve, et Brian n'ignorait pas qu'il était loin d'être trop vieux pour ce boulot. À 43 ans, il entrait à peine dans l'âge d'or des pilotes de ligne. Malgré tout, ce soir, il en arrivait presque à le croire. Bon Dieu, qu'il était fatigué. On frappa un coup contre la porte de la cabine. Steve Searles, le navigateur, pivota sur son siège et